Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez Les passions de Camille. Et nos deux invités aujourd'hui habitent toutes les deux la ville de Longueuil. Elles ont une expérience similaire en lien avec le regard des autres et curieusement, leur anecdote à toutes les deux s'est passée à l'épicerie. Alors, je vous garde le suspense, on a hâte de les entendre et j'ai nommé Léa Desjardins-Pétrone et Joël Rivard. Notre première invitée est une femme fonceuse qui mord dans la vie. Elle a 32 ans et elle est conseillère en marketing chez Groupe AFFI Logistique. Bonjour Léa Desjardins.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Bien, ça fait plaisir de te parler parce qu'on se connaît depuis longtemps, toi et moi Léa.
Effectivement, depuis pas mal toujours.
Oui, t'as bien raison. Parce que, évidemment, comme beaucoup de mes invités à l'émission Les Passions de Camille, eh bien, notre point en commun, c'est l'Association des amputés de guerre. Pour nous, tout a commencé là, ou à peu près.
Effectivement.
Oui. Et alors, toi, tu travailles chez Groupe AFFI Logistique. Est-ce que tu peux me dire, vite fait, en fait, en quoi cette organisation se démarque des autres?
En fait, on est une organisation, une entreprise adaptée, comme on dit. Donc, on est 80% des gens ont des limitations fonctionnelles, c'est-à-dire pas juste physiques, là, mais que ce soit là, au niveau de la santé mentale, limitations là, intellectuelles ou encore physiques. Donc, c'est quand même impressionnant ce qu'on arrive à faire avec tous ces gens-là qu'on réussit à mettre les talents et les forces de chacun de l'avant. Donc, en gros, Groupe H Logistique, on est un impartiteur d'activités logistiques, ce qui veut dire qu'on, grosso modo, on fait de la sous-traitance pour les grandes entreprises. On fait de l'emballage et toutes sortes de tâches là, manuelles comme ça. Puis, on embauche là, beaucoup de personnes avec limitations.
Et parce qu'effectivement, toi, tu as une limitation.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux me parler de ton handicap, de ta malformation?
Tout à fait. Si jamais tu veux compléter, Camille, là, c'est, des fois, c'est difficile de l'expliquer. Moi, c'est vraiment physique. C'est une malformation de naissance. Donc, je suis née avec les bras plus courts. J'ai pas de coudes. J'ai des poignets, par contre. Puis mes doigts, j'ai trois doigts seulement dans chacune des mains. Donc, je sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu, mais c'est à peu près le portrait.
Oui, pour moi, en tout cas. Évidemment, je te connais. Mais oui, en fait, c'est vrai que quand on te voit, c'est le principe du fait que, tu as les bras qui sont plus courts. Plus petit.
Exact.
Et là, toi, tu as 32 ans, tu es en couple depuis 10 ans.
Oui, presque 10 ans.
Presque donc, 10 ans.
Oui, tout à fait. Et puis, je suis aussi maman de deux jeunes garçons.
Mm-hmm. Qui ont quel âge?
3 ans et 5 ans.
Donc, wow, quand même.
Rentrée à la maternelle cette semaine, comme plusieurs familles.
Et oui. Et là, moi, je suis curieuse. Ton conjoint, est-ce que vous êtes mariés?
On n'est pas mariés, non.
Pas encore, c'est à venir.
Peut-être un jour, là, j'espère. Je vais lui demander d'écouter l'entrevue. Là,
c'est ça, pour que ça le motive, ça lui donne des bonnes idées. Mais j'ai envie que tu me racontes le début de votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés? J'ai cru comprendre que c'était par l'entremise d'un site de rencontre. Est-ce que c'est exact?
Exactement.
Et bien là, je veux en savoir plus.
Oui, c'est drôle. En fait, c'est jadis, on s'est rencontrés sur Réseau Contact, puis j'étais pas très fervente de ce site, mais bon, c'était un peu un défi avec une de mes amies. Et finalement, je suis restée 2 jours sur ce fameux site.
Okay.
Mais puis j'avais donné mon courriel à une personne, puis ça s'annonce que maintenant, c'est mon conjoint.
Incroyable! Donc,
oui, puis c'est quand même particulier parce que, j'ai jamais vraiment annoncé le fait que je vis avec un handicap, tu sais, parce que les gens le voient. Mais là, il a fallu qu'en quelque part, je lui mentionne, parce que je l'avais pas mis naturellement sur ma photo. Là.
C'est ce qu'on veut.
Ça a été une drôle étape, mais une fois que ça a été fait, ça s'est bien passé. Puis j'ai d'ailleurs particulièrement apprécié là, sa réaction, qui était comme « on va se rencontrer, j'aime mieux voir ça dans la globalité de qu'est-ce que tu es », parce que j'avais demandé s'il voulait que j'y envoie une photo. Mais Finalement, non. J'ai pas eu besoin de lui envoyer une photo. On s'est vu quelques fois, puis ça a cliqué.
Il a accepté tout naturellement, comme ça.
Oui, vraiment. J'étais impressionnée. Puis je pense que ben c'est ça. Ça a cliqué. Je pense que c'était fait pour arriver.
Ah oui, ben oui, complètement. Et là, le fait que vous ayez deux enfants, toi, c'est une malformation. Est-ce que c'est la génétique, c'en est où par rapport à ça? Est-ce que tu as fait des recherches justement avant de tomber enceinte?
Excellente question. En effet, j'ai fait un peu de recherche avant. On m'avait dit qu'en fait, on avait dit à mes parents quand j'étais jeune de demander où en était la science à ce niveau-là. Puis effectivement, on a pu faire des tests génétiques. Donc, j'avais su que c'était pas génétique là. Juste un peu avant de tomber enceinte, j'avais fait des tests à Sainte-Justine. Puis okay. On m'a mentionné que c'était pas génétique.
Donc, aucune inquiétude à avoir.
Non, exactement. On ne sait toujours pas pourquoi mes bras sont comme ça. Une petite erreur de la nature ou je ne sais trop.
C'est ce qu'on dit souvent.
Côté,
hein?
Je m'en porte bien. Oui, exactement.
Puis là, on s'en doute bien. Donc, tes deux garçons, ils ont tous leurs membres et tout ce qu'il faut, quoi.
Oui, beaucoup d'énergie aussi.
Puis je vous imagine que toi, t'as appris à être débrouillarde très rapidement, là, en étant une maman encore plus, j'imagine. Mais pour toi, c'est du fait que t'es née comme ça. Je te pose la question, je me doute très bien de la réponse parce qu'on a un vécu similaire à ce niveau-là. Mais ça a été naturel, encore une fois, chez toi, de dire, OK, moi, j'ai des bras plus courts que les autres, mais je fais les choses à ma façon.
Tout à fait. Dans le fond, le fait d'être née comme ça, mais j'ai jamais connu autre chose. Donc, je peux pas comparer. Donc, effectivement, c'est naturel. Puis, j'ai aussi été élevée, là... Comme n'importe quel autre enfant, je dirais, là, j'ai une sœur aussi, on a été élevés de la même façon. Puis, bon, je fais les choses sans trop me poser de questions, puis ça se fait naturellement. Puis des fois, il faut que je m'adapte, mais on dirait que je finis par le faire naturellement. Mm-hmm.
Et est-ce qu'il y a une chose, c'est quoi ta la plus grande difficulté, une chose que tu n'arrives pas à faire?
C'est drôle parce que comme exemple, je donne tout le temps la même chose. C'est comme, je peux pas m'attacher un collier, par exemple. C'est une petite chose quotidienne de la vie.
Des trucs de fille.
Mon conjoint qui le fait. Oui, exactement. Parce que bon, comme j'ai pas de coude, je me rends mal derrière mon cou, finalement. C'est comme mon petit... des fois, les bouts d'oreilles, là. Mais c'est pas mal ça, là, c'est quand je pense vraiment à ce que je peux pas faire, là, c'est pas mal ça.
Incroyable. Ça peut paraître banal. Bon, c'est sûr que oui, une fille, on aime avoir cette liberté de pouvoir mettre nos bijoux toute seule, mais c'est pas énorme,
c'est
quoi.
C'est essentiel, non? Effectivement.
Exactement. Puis comment s'est passée ton adolescence, du fait que ton handicap est voyant? Les gens le remarquent quand même beaucoup. Ça s'est passé comment pour toi?
Mon adolescence s'est bien passée en général. Je pense que je m'accepte depuis presque toujours, j'oserais dire, parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais à l'adolescence, ça s'est bien passé comme les autres adolescents, finalement. Donc, je suis capable de parler de mes cheveux blonds frisés autant que mes bras, puis pour moi, il n'y a pas tant de différence parce que ça fait partie de moi. Donc, j'étais chanceuse de ce côté-là.
Et c'était même un avantage, c'est des fois.
Tout à fait. Moi, j'aime dire qu'effectivement, c'est un avantage, notamment dans le domaine dans lequel j'évolue, tu sais, en communication, relations publiques, marketing, des fois laisser une impression ou le fait que les gens se rappellent peut-être un peu plus de nous, c'est tout un avantage, je trouve.
Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu t'es déjà imaginé avoir tes deux bras comme tout le monde? Est-ce que tu penses que tu aurais été la même personne?
C'est une excellente question aussi. Je dirais que je pense pas que je serais très différente. Par contre, je crois que ma situation m'a amenée à peut-être avoir certaines qualités qui se sont développées davantage, que ce soit la débrouillardise, le côté fonceur ou tout ça. Je pense que ça m'a permis de développer davantage, je dirais. Est-ce que je serais très différente? Je le sais pas, mais chose certaine... J'aurais pas nécessairement le goût d'avoir les bras normaux.
Incroyable! Les gens, je pense qu'ils s'attendent pas à ce que tu me donnes cette réponse-là.
Ben, tu sais, pour moi, non plus, c'est que je ne sais pas c'est quoi.
Oui,
sais pas c'est quoi avoir des bras
vrai.
Normaux. Puis, comme les gens savent pas c'est quoi être à ma place nécessairement, donc, j'ai comme une malformation qui est très voyante, mais qui me limite vraiment pas beaucoup. Honnêtement, tu sais, j'ai fait de l'escalade, du hockey collégial, je joue au soccer depuis que j'ai 6 ans. Je suis d'ailleurs coach maintenant. Donc, tu sais, j'ai fait pratiquement tout, là, je parle de sport, mais il y a pas, j'ai pas, ça me limite pas beaucoup. Donc, clairement, je changerai pas.
Ben là, j'espère pas que tu vas changer. Puis là, tu me nommes plein de sports, donc tu es très sportive. Puis une chose intéressante aussi, tu as couru pour la Fondation Réa.
Oui.
Pour quelle raison?
Ah, ça, c'est intéressant. Ben, parce que, la Fondation IREA, au niveau de la réadaptation et tout ça, moi, j'ai pas eu tant de réadaptation comme telle, mais il y avait tout le côté qui était en lien avec le centre mère-enfant qui aide les personnes qui ont toutes sortes de limitations au niveau pour avoir des enfants, justement, donc des adaptations qui sont là pour les aider. Il y a des ergothérapeutes, etc.
Est-ce que c'est la clinique Parents Plus?
Oui, Parents Plus, ouais. Exactement. Mmh. Je me suis mélangée, excuse-moi. Mais effectivement, ça m'avait beaucoup touchée. Puis donc, c'est un peu pour ça que j'avais couru pour cette cause. Parce que, bon, là, peut-être que je vends un punch pour plus tard, là, mais quelque chose que j'ai vraiment pas souvent dit.
Oui.
Moi, je fonce, là. Je fonce, généralement, je me pose pas trop de questions. Mais j'avoue, là, que je me suis demandé... Est-ce que je vais être à la hauteur pour être maman? Là? C'est pas mal la seule chose qui m'a questionnée vraiment. Puis ça a bien été, mais je comprends tellement la plus-value de cette clinique-là. Puis c'est un peu pour ça que j'ai fait cette course.
Magnifique. Mais je te propose que, oui, on va pouvoir en reparler après la pause de justement ton rôle de maman. Et je vais vouloir surtout que tu me racontes ta fameuse anecdote qui s'est passée à l'épicerie. Mais on va aller écouter une chanson en attendant juste avant. C'était We Are Family de Sister Sledge. Et c'est, je trouve, une bonne chanson pour toi, Léa, parce que, ben oui, ta famille est très importante pour toi. Mais avant de parler de ça, je veux absolument que tu nous racontes ton anecdote en lien avec le regard des autres.
Effectivement, le regard des autres, c'est quand même quelque chose à quoi on finit par s'habituer. Par contre, des fois, puis même plus voir, genre, je le remarque pas vraiment. C'est plus les gens autour de moi qui disent « Mon Dieu, tu te fais regarder! » Tout ça. Mais ça, bon, ça me dérange pas trop. En fait, pas du tout même. Mais je me rappelle de cette fois-là, en particulier à l'épicerie, là, il y a un peu plus d'un an, il y a un enfant qui s'était... On était aux caisses, lui était dans la caisse juste à côté, et commence à me dire « Maman, regarde la madame! » Mais là, il s'écrit ça très fort, donc tout le monde nous regarde à partir de là. Puis là, je me souviens plus le vocable qu'il avait employé, mais c'est quelque chose comme « C'est bien dégueu, c'est bras! » Donc là, la maman, ouais, quelque chose comme ça. Donc là, c'était quelque chose de... C'était dans le domaine du dégoûtant. Donc là, ça arrive, là. Des enfants, je pardonne, j'ai été longtemps monitrice dans les camps de jour, donc j'en ai vu quand même de toutes sortes, plein de questions. Jusque-là, ça c'était pas trop une anecdote, jusqu'à ce que, sa mère ne réponde pas, ne fasse rien, en fait rien du tout. Donc là, et ça s'est mis un peu, c'était pas s'escalader, mais presque, jusqu'au moment où vraiment tout le monde avait les yeux rivés autour de nous, parce que là, il en rajoutait, là. Mais voyez, ça n'a pas d'allure qu'elle ait des bras comme ça, puis tout le monde, on dirait, me regardait, était bouche bée, savait pas ce qui allait se passer.
Mais est-ce que tu penses que la mère, du fait qu'elle n'ait rien dit, elle devait être mal à l'aise, tu penses? Elle était figée elle-même?
Non, elle n'était pas figée. C'est comme s'il ne se passait rien. Donc, c'est ça que je trouvais un peu étonnant. Elle continuait à faire ses affaires. Peut-être qu'elle essayait de pas se faire reconnaître ou je ne sais pas trop. Ou
de pas se faire remarquer.
Si rien n'était ou de pas se faire remarquer, effectivement.
Un peu trop tard.
Mais là, ça fonctionnait pas, là. Finalement, il a fallu que je prenne le taureau par les cornes, que je parle aux garçons, mais vraiment, tout le monde me regardait. C'était ça qui était un peu plus impressionnant à ce moment-là, de voir comment j'allais réagir à tout ça. Puis, tu sais, comme un peu ce que je fais souvent, c'est de mentionner, écoute, je suis née comme ça. Quand je suis sortie du ventre de ma maman, mes bras n'avaient pas bien poussé. Tu sais, c'est un petit gars peut-être qui avait 8 ans, là, je dirais. Donc, Puis voyant que ça avait pas l'air de faire ma réponse, je lui ai dit clairement, tu sais, toi, il était mulâtre, là, donc j'ai dit, tu sais, toi, c'est la même chose pour ta couleur de peau, là. Puis là, mais ça a été quand même particulier. Puis après ça, toute l'équipe de l'épicerie est venue me voir et tout pour savoir, pour ça, c'était correct, s'excuser et tout, mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'excuser. Bref, ça arrive des fois, mais c'est rare, ce genre d'anecdote.
Oui, mais je trouve intéressant que tu la racontes parce que c'est quand même un sujet qui reste tabou, malgré que, on parle de plus en plus d'inclusion, de la différence, du handicap, comme tu dis, la différence de la couleur de peau. Mais c'est important face aux enfants, puis c'est là où ça me touche, ton côté de... Tu me disais que ton plus grand défi, c'est ton rôle d'être la meilleure maman pour tes garçons.
Effectivement, mais je pense que c'est important de préparer la relève, si on veut. Je vois ça comme un défi dans le sens qu'il n'y a pas un point où je me dis « Voilà, j'ai atteint ce défi-là. » Je pense que je suis une bonne maman, là, mais je me dis « On peut toujours être encore meilleure là, dans notre rôle. » Puis c'est un rôle qui évolue tellement au fil des jours, au fil des semaines, des ans. Donc, je pense que c'est pour moi mon plus grand défi présentement. Puis en plus, si on ajoute à ça peut-être la conciliation au travail-famille et tout, fait que je pense que c'est vraiment mon défi le plus grand présentement.
Et là, tu disais qu'avant d'être enceinte, tu avais un peu ces craintes ou ces questionnements. Maintenant que tu as tes garçons, est-ce que ces craintes-là se sont dissipées ou il y en a des nouvelles qui se sont installées?
Ça s'est rapidement envolé, je dirais, là. Après, à peine quelques minutes après que j'avais mon premier garçon dans les bras, je me suis dit, mon Dieu, je vais être capable. On dirait que, après ça, je me suis dit, est-ce que, dans le fond, toutes les mamans n'ont pas des craintes aussi? À savoir, est-ce qu'on va être à la hauteur, là, avant même d'être maman, là, veux pas? C'est quand même une grosse étape, quelque chose qui change aussi là, beaucoup la vie, notre vie. Donc, finalement, ça s'est quand même rapidement envolé. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites choses que je peux pas nécessairement faire exactement pareil. Tu sais, j'avais aussi aussi banal que ce soit, est-ce que je vais garder bien prendre mon enfant?
Mm-hmm.
Ben ça, c'est le genre de crainte qui s'est très vite envolée parce que, bon, je l'ai vu que ça allait super bien rapidement. Mais tu sais, disons, les bassinettes, là, moi, mais comme le fait que mes bras sont plus courts, ben, je me dis je vais même pas avoir genre la difficulté à le déposer au fond de la bassinette.
Oui.
C'est le genre de l'adaptation qui est faite aussi là, par la Fondation Réal et tout ça, avec le centre de réadaptation. Mais dans mon cas, j'ai plutôt opté là, pour des matelas au sol. Donc, mes enfants ont dormi dans des matelas là, doubles, normaux, mais qui étaient mis sur une base vraiment pas très haute au sol. Donc, ça, en fait, c'est un conseil que même j'ai donné à plein d'amis qui n'ont pas de handicap ou rien, parce que c'était vraiment pratique de pouvoir m'étendre à côté d'eux, notamment pour allaiter là, quand ils étaient bébés. Donc, avec les nuits, les courtes nuits qu'on a au début, ça m'a permis de faire un peu de côte d'eau. Là. Bon, je rentre pas dans toute cette question-là, mais reste que ça a été une chose, une petite adaptation, disons, que j'ai fait, mais que j'avais vu ailleurs. Là, donc, j'ai opté pour ça. Puis après ça, ben, j'ai magasiné ma poussette un peu plus qu'une autre, peut-être, parce que bon, les façons que ça ouvre, ben, il fallait que je m'assure que ça soit, que je sois capable de l'ouvrir, finalement. Mais c'est des petites choses comme ça. Mais, tu sais, faut comme j'y pense pour me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de différent, tu sais, parce que dans le fond, c'est un peu intégré à mon mode
naturel.
De vie, là, naturel, exact.
Mais oui. Est-ce que tu penses que tes fils sont conscients que leur maman, elle est différente? Est-ce qu'ils sont conscients de ton handicap, tu crois?
Oui, ils sont conscients, puis c'est très drôle parce que c'est assez récent, mon plus jeune, il y a 3 ans et demi, là, présentement, puis on dirait que récemment, ça l'a plus marqué. Puis il est comme, oh, maman, des petits bras, puis il faut faire attention aux bras de maman, mais c'est très drôle parce que mon plus jeune, il faut savoir qu'il est très tough, là, qui déplace d'énergie, là, il m'a entre autres fait une commotion cérébrale avec sa propre tête parce qu'il est vraiment, tough, là, j'ai pas d'autres mots, là, sec dans ses mouvements et tout, mais ben, tu sais, il n'y a pas besoin de faire attention à mes bras, là. C'est ça que j'essayais d'expliquer. Fais juste attention en général, mais mes bras, ça va, tu sais. Puis mon plus vieux, ben, en fait, les deux sont aussi venus à un séminaire, là, de l'Association des Anti de Guerre. Donc, là, ils ont vu, à ce moment-là, beaucoup d'autres personnes, puis je pense que c'est là, qu'ils ont réalisé que vraiment j'avais une différence, tu sais, parce que, bon, ils le voyaient, ils savaient que j'étais différente, mais pour eux, je suis leur maman puis je suis comme ça. Ils m'ont aussi toujours connue comme ça. Donc là, je pense que ça a été vraiment le point tournant, là, surtout pour mon plus vieux. Là, il m'en parle encore beaucoup, même si ça fait plus qu'un an aussi. Là.
OK, quand même. Mais oui, mais eux, t'as beau être leur mère, ben ce qui est magnifique, c'est que tu as beaucoup à leur apporter dans justement leur éducation, mais le regard sur la différence, ils n'auront pas le même regard sur le monde. Et le jour où eux vont rencontrer, croiser une autre personne qui a un autre défi dans la vie, si je peux dire ça comme ça, je suis persuadée qu'ils auront déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres.
Tout à fait, je trouve ça intéressant parce que cette semaine, je parlais justement avec l'éducatrice là à la garderie, puis le groupe est très, je veux dire, multiethnique, et les enfants le voient même pas, tu sais. Donc, je trouve qu'au niveau de la différence, clairement, ils sont déjà exposés, mes enfants, beaucoup, puis je trouve ça tellement important. Puis tu sais, je pense que dans quelques années, là, je pense qu'on n'appellera peut-être même plus ça une différence, dans le sens, ben, il y aurait pas toujours des différences, mais je pense que de plus en plus, là, avoir une société hétérogène, ça fait partie de la norme, puis je trouve ça bien et beau aussi, là, que ce soit couleur de peau, que ce soit au niveau santé mentale, que ce soit même bon physique et tout. Je trouve que c'est cette diversité-là qui apporte beaucoup, que ce soit au niveau visuel à la télé, dans les médias et tout, ou même dans les milieux de travail. Je pense que c'est une richesse, là, cette différence.
Complètement. Et tu me parlais de ta conciliation enfant, famille et travail, parce que, tu sais, entre nous, on sait très bien que, bon, être handicapé, oui, on s'adapte, on développe énormément de force, mais la fatigue physique est quand même là. Et plus on vieillit, j'ai envie de dire, plus on prend conscience de nos limites. Comment tu vois ça, toi? Comment tu le vis? Est-ce que tu as des moments où tu as une extrême fatigue?
Ben, extrême fatigue, je dirais pas, mais où je sens que, effectivement, je vieillis, je vais dire ça comme ça. Et en fait, récemment, j'ai pris conscience aussi que c'est important de prendre soin de moi pour pouvoir mieux prendre soin de mes enfants, tu sais. Puis de me dire, ben c'est correct que je prenne du temps pour moi pour aller courir, par exemple. Ou là, j'ai fait du cardio plein air cet été. Donc, ce bout-là de se garder en forme, ça s'applique, tu sais, pour nous, là, Camille, mais pour aussi n'importe qui,
oui,
pense, là, de se dire, ben pensez à nous, se garder en forme pour avoir plus d'énergie pour le reste. Mais bon, tu sais, je pense que, ben, pour ceux qui me connaissent, là, j'ai naturellement beaucoup d'énergie.
Oui.
Mais effectivement, je vois que oui, effectivement.
Mais tes enfants, en même temps, te permettent de rester actif parce que tu les accompagnes, tu fais beaucoup de sport, d'activités avec eux. Quand on dit hein, rester actif, ça nous donne de l'énergie aussi un peu. Donc, je trouve que t'es bien entourée à ce niveau-là. Puis j'ai envie de te demander, en quelques minutes, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux jeunes ou même aux adultes qui sont moins bien dans leur peau, qui vivent moins bien avec ben, voilà, leur corps? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
Ben, je pense que c'est difficile, mais le but ultime, c'est de réussir à s'accepter. Puis de se dire que finalement, tout le monde a ses différences, que ce soit physique ou autre. Puis que finalement, ben, souvent aussi au regard des autres, notre différence est peut-être moins pire finalement que ce que ça en est. Tu sais, je pense, que ce soit même, tu sais, quelqu'un qui se trouve trop gros, tout ça, ou tu sais, n'importe quoi. On est tellement rendu, je trouve, sévère avec l'apparence des gens, notamment, et ces différences-là. Ça fait souvent qu'on est plus sévère avec nous-mêmes. Donc, je pense que j'ai envie de dire à tous ces gens-là d'ajouter un peu plus de bienveillance envers eux-mêmes. C'est quelque chose qui, je crois, se travaille et qui est souvent pas inné, mais je pense que c'est de faire des choses pour soi, de s'aimer le plus possible, puis justement en faisant des choses pour soi, ben souvent on s'aime plus, puis de cultiver un petit peu là, cet amour pour nous, finalement.
C'est magnifique. J'espère que plein de gens auront la chance d'entendre tout ton témoignage, mais ce que tu viens de nous dire aussi, parce que c'est important pour nous. On a appris à être bien dans notre peau. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde autour de nous. Merci infiniment, Léa. Puis je te souhaite bonne chance, belle vie à toi, à ta famille, avec ton conjoint, tes enfants et plein d'autres belles histoires.
Merci beaucoup, Camille. Au plaisir.
Oui, au plaisir. Restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre deuxième invité qui a une tonne de choses aussi à nous raconter. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Oui, Camille Chai encore avec vous pour la prochaine demi-heure. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre deuxième invitée. Elle a 43 ans. Elle est ex-athlète paralympique en natation et aujourd'hui coordonnatrice sportive pour Parasport Québec. Et j'ai nommé Joëlle Rivard. Bonjour, ma chère.
Salut, Camille.
Comment tu vas?
Ça va super bien, toi?
T'es très bien. Ça me fait très plaisir de te recevoir à l'émission.
Ben moi aussi.
Alors, Joëlle, on rentre dans le vif du sujet. Toi, tu es née avec une malformation des quatre membres et tu dis être fière d'être une erreur de la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Oui, en fait, fière d'être une erreur, c'était le titre de la conférence que j'ai roulée pendant quelques années. Puis oui, en fait, c'était un clin d'œil. C'était ma façon à moi de faire un clin d'œil à ma différence puis de dire, hey, ça peut être le fun, être différent. Oui, en fait, oui, je suis fière d'être une erreur de la nature. C'est ça. Oui, je suis fière de ça. En fait, tu sais, c'est ma marque de commerce. Hein.
Oui.
J'ai appris, dans le fond, au lieu d'en faire mon calvaire, je pense que j'ai appris à l'utiliser, ce côté-là de moi.
Oui, mais c'est la meilleure solution à choisir parce que tu as tout à gagner en faisant ça.
Ben oui. Puis, c'est quand on l'utilise à notre escient, je pense qu'on réussit à faire un allié de cette affaire-là au lieu de faire notre étiquette quelque chose qui peut nous tirer vers le bas, on peut en faire quelque chose qui nous tire vers le haut.
Complètement. Et toi, là, pour qu'on puisse se faire une idée, ta malformation des quatre membres, ça ressemble à quoi?
Tu sais, le chanteur Martin Deschamps?
Oui.
Ben c'est ça. Je suis pas mal une Martin au féminin.
Martine.
Ouais, la blague, ouais, je suis juste beaucoup plus jolie que lui.
Ça, c'est sûr.
C'est ça. On ne dira pas trop fort.
Non. Mais donc, est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu as des prothèses? Est-ce que tu te déplaces en fauteuil roulant?
En fait, je marche avec une jambe artificielle, mais quand j'ai des longues distances à faire, puis longue distance pour moi égale 20 minutes debout, là, plus je vieillis, plus je vais utiliser le fauteuil. Je te dirais que depuis que j'ai une trentaine d'années, je fonctionne. Dès que je sais que l'environnement va être accessible, je vais fonctionner en fauteuil. C'est beaucoup moins fatigant, beaucoup moins épuisant. Je vieillis, j'ai besoin de plus d'énergie pour faire mes journées.
Oui.
Fait que, c'est ça. Le fauteuil, à un moment donné, j'ai eu un conjoint qui était en fauteuil roulant aussi.
Okay.
Fait que, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai apprivoisé la chaise aussi. À un moment donné, Patrick, je pense qu'il était tanné d'attendre après moi. Mon petit speedy en chaise allait très vite. Mm-hmm. Fait que une journée, j'ai fait c'est vrai qu'au centre d'achat, ça pourrait être le fun de le suivre aussi. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à utiliser le fauteuil pour pouvoir suivre mon chum plus rapidement. Puis au final, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins fatiguée à la fin de mes journées que d'utiliser la jambe artificielle. Puis c'est ça. Puis le fait que je travaille au stade olympique, c'est tout adapté. Donc,
génial.
C'est ça. Puis il y a comme un casse-tête de moins, hein, tu le sais, hein?
Oui.
Quand on fonctionne en fauteuil ou avec une jambe artificielle, des fois, notre gros casse-tête dans nos sorties, c'est la notion d'accessibilité.
Tellement.
Fait que chez moi, c'est adapté. Au travail, c'est adapté. Fait que on en profite.
Et puis ce que je trouvais important de mentionner, c'est que tu es une ex-athlète, tu as fait de la natation pendant plusieurs années. Donc,
oui.
Physiquement, tu as toujours été très en forme, tu as toujours été une fonceuse, une athlète, rien de moins.
Oui.
Mais j'aime que tu parles quand même de... Ça touche tout le monde. On en parlait un petit peu dans l'entrevue avant. Pour n'importe qui, les gens disent début de la trentaine, il faut plus faire attention à notre corps, mais encore plus quand on a un handicap, parce que la notion d'énergie, c'est là qu'on se rend compte qu'on doit faire des choix qui vont nous simplifier le quotidien, la vie au quotidien.
Oui, puis tu sais, faut quand même pas oublier, Camille, que marcher avec une jambe artificielle, c'est quand même beaucoup plus énergivore.
Ah, oui.
Ça nous demande quand même 300% plus d'énergie qu'un autre marché.
Oui, complètement.
Fait que, tu sais, le facteur vieillissant, tu sais, déjà quand on vieillit, les gens, on arrive dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on le ressent déjà à la fin de nos journées.
Oui.
Quand on n'a pas d'handicap, on le ressent qu'on vieillit.
Mm.
Fait que ça, quand on a un handicap physique, notre corps est amené à... Moi, je me souviens, j'étais très jeune, puis les médecins me disaient « Ah, Joël, jusqu'à 40 ans, marcher, il n'y aura pas de problème pour toi.
Mm. »
Tandis qu'à 40 ans, ça se peut que tu aies des choix à faire.
Oui.
Effectivement. Quand je suis arrivée dans la quarantaine, j'ai fait comme oui.
Tu te souvenais de ce qu'il t'avait dit.
Il avait raison. Cette fois-là, il avait raison.
Mais est-ce que tu es confortable dans ta prothèse?
Oui. Oh oui, c'est pas de question de. En fait, même je te dirais que ce qui me limite, j'ai tendance à parler de la jambe artificielle, qui est énergivore, mais c'est bien plus ma jambe à moi, là, que j'appelle ma jambe qui a aussi une malformation.
Mm.
Donc, quand j'ai des douleurs à rester debout, c'est pas ma jambe en métal qui me fait mal, elle est en métal.
Oui, c'est ça.
Elle est en métal, c'est pas elle qui a mal. C'est mon autre jambe.
C'est l'autre qui travaille très fort.
C'est ça, c'est l'autre qui travaille. Elle travaille pour deux. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai commencé à faire de l'arthrose dans ma hanche.
Eh oui.
Elle travaille pour deux, cette hanche-là. Fait que, c'est sûr qu'elle m'a gagné pour deux aussi. Là.
Oui, c'est une surutilisation.
Exactement. Comme les athlètes de haut niveau.
Voilà, tu sais de quoi tu parles.
Comme les athlètes de haut niveau, ouais, oui.
Et tu penses quoi du mot handicap? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ça, il faut pas dire ça. Tu parles de masturbation de mots. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oui, moi je trouve que des fois, on s'en fâche peut-être à ne pas savoir comment nommer les gens. Il y a beaucoup d'appellations, hein, personne à capacité physique restreinte, personne handicapée. Puis, toi puis moi, là, à un moment donné, je trouve que oui, c'est de la masturbation de mots, dans le sens où on sait plus quel mot utiliser, on veut pas froisser, on se pose ben trop de questions. Ce qui est important, là, c'est qu'on est des personnes avant tout.
Mm.
Donc, tu sais, je suis une personne avec un handicap. je suis pas un handicapé.
Ah oui, non, certainement pas.
Ouais, ben, tu sais, s'il y a un truc sur lequel je pense que c'est important de se masturber, c'est là-dessus. on est des personnes avec une différence, oui. Ça, oui. Mais pour le reste, j'ai peut-être hâte qu'à un moment donné, on arrête de faire des thèses de doctorat sur les bons mots à utiliser, mais que cette énergie-là, on la mette à régler les problèmes d'accessibilité, puis qu'on soit vraiment dans l'action. T'sais. Peut-être un peu moins dans nos têtes des fois, puis un peu plus dans l'action.
Eh oui. Et là, je suis désolée, mais tu me parles de masturbation, je rebondis là-dessus. Est-ce que parce que la sexualité aussi, pour une personne qui est handicapée, ça reste un sujet qui est tabou, mais moi, j'adore en parler. Je trouve que c'est important d'en parler. T'as beaucoup de choses à raconter sur tes relations avec les hommes. Tu m'as parlé de ton premier conjoint qui était en fauteuil roulant. Oui. Est-ce que, je sais que dernièrement, là, t'es célibataire, mais t'as été en couple dernièrement et apparemment, ta séparation n'a pas été très facile.
Ben, en fait, je pense que ça peut arriver. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je pense que des fois, pour certaines personnes, la notion de handicap prend trop de place dans le couple. Ça dépend de mon dernier conjoint, c'est un sauveur. Je pense que lui était très attiré par l'aide qu'il pouvait me donner. Il me connaît. Je pense que après un certain temps dans la relation, ben il pouvait plus se nourrir de ça non plus. Fait que ouais. Puis la raison, ça a été le handicap prend beaucoup de place dans notre relation et tout. Fait que je pense que je serais mieux avec quelqu'un qui n'a pas de handicap finalement. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est très blessant recevoir ça, tu sais. Puis le temps de décanter tout ça, puis de te rendre compte que et finalement, monsieur est en train de parler de ses propres limites à lui. Ça prend beaucoup de travail sur soi. Puis beaucoup d'introspection, puis une belle intelligence émotionnelle pour arriver à départager tout ça. Prendre ce qui m'appartient, puis ce qui appartient à monsieur, puis tout ça. C'est une expérience.
Mais de toute façon, ce que tu nous dis, là, ça touche tout le monde, qu'on ait nos deux jambes ou pas. Une relation intime, amoureuse, de couple, c'est voilà, deux personnes ensemble et on arrive chacun avec notre bagage. Donc, c'est. Oui, ça fait
une série. On arrive chacun avec notre bagage. On arrive chacun avec nos limites aussi. Puis je pense que ça devient facile à un moment donné dans une rupture d'aller chercher le défaut de l'autre. C'est sûr que moi, aux yeux de Madame Tout-le-Monde, mon plus gros défaut, là, c'est mon corps. Il faut entrer en relation avec Joël pour se rendre compte qu'elle a un sale caractère. Non, blague à part, mais tu sais, je suis pas mal sûre, je suis peut-être bien utopiste en pensant ça, mais je pense pas que c'est mon petit corps qui est ma plus grande étiquette. Mais bon.
Non, mais.
Faut entrer en relation avec moi pour le savoir. Mais tu sais, quand au premier abord, c'est sûr que nos stigmates sont forts. Hein?
Complètement. Et oui, mais quand. Puis,
première chose qu'on voit, là. Fait que c'est
voilà.
Sûr que c'est bien notre étiquette.
On se fie à ça. Et tu parlais aussi de capacitisme.
Oui.
Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est un peu le fait, comme tu dis, par exemple, être en couple avec une personne qui veut te sauver, est-ce que cette personne remet en doute un peu tes propres capacités? Ou
absolument.
C'est...
Ben, absolument. Puis en fait, c'est quand je parle de capacitisme, c'est un truc qui est bien à la mode chez les Anglais. On va parler de ableism. C'est vraiment de juger quelqu'un en fonction de ses capacités. Chez les gens de minorité visible, on va parler de racisme. Hein? On juge quelqu'un en fonction de sa race. Mm-hmm. Chez les personnes handicapées, on peut parler de capacitisme. Donc, on va juger quelqu'un en fonction de ce qu'on croit être ses capacités.
Mm-hmm. Donc, c'est la projection des autres par rapport à la personne qui a une différence.
Voilà. Fait que souvent, hein, tu sais, puis Camille, tu dois te faire dire ça toi aussi. À moi, si j'étais à ta place, Camille, je sais pas comment je ferais. Fait qu'on revient encore à la notion de je sais pas si je serais capable de faire les choses. Et toi puis moi, quand on se retrouve dans le même bateau que nous, là, on fait les choses. Je pense que l'instinct de survie prend le dessus, puis on trouve nos solutions.
Complètement.
Et... Chaque être humain a cette capacité-là, justement, oui. de de mettre son instinct de survie en avant. Et ça, on a tendance à oublier cette notion-là. Je pense qu'on l'a tout, ce côté-là, fonceur.
Oui, on l'a. C'est la meilleure chose, c'est ce qui nous fait du bien. D'ailleurs, je te propose, on va faire une petite pause et on va aller écouter une chanson qui fait du bien.
Ah oui.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
C'était La mère de Charles Trenet. Un petit clin d'œil pour toi, Joël Rivard, parce que quand même, ton élément, c'est l'eau, hein? On va pas se le cacher.
Hey, tu ris, hein, mais je vais te faire une petite tranche de vie, là. J'adore nager. Mais j'ai peur de nager dans la mer.
Oh non, incroyable.
Moi, il faut que je voie des tuiles. Il faut que ça sente le chlore. Sinon, je perds toute mon aisance dans l'eau.
Ouais.
Mais mon petit secret de la journée.
Ah ben, je suis contente. On est contente de l'avoir découvert. Mais parce que la mer, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le fait de ne pas voir le fond, de ne pas savoir ce qu'il y a peut-être en dessous de toi dans l'eau, c'est ça qui te fait peur?
Ben, je pense que j'ai peur des requins, puis j'ai pas d'autres bouts à perdre. C'est ça.
Excellent, Joël, excellent. J'adore. L'humour aussi, c'est un des meilleurs ingrédients dans la vie.
Oui.
Mais d'ailleurs, j'ai envie tout de suite que tu nous parles de ta fameuse anecdote que tu as vécue, puis notre invitée du début de l'émission, elle aussi avait une anecdote qui s'est passée à l'épicerie, et toi aussi.
Ah oui, ben ça, l'épicerie, ouais, il y a quelques années. Ouais, des fois, c'est pas tout le temps le fun, hein, les trucs qui... Moi, je te dirais que 90% là, des expériences que j'ai sont toujours positives. Mais cette fois-là, à l'épicerie, ouais, il y avait un papa avec sa petite-fille qui avait environ une dizaine d'années. Pas si jeune que ça, là, la petite. Là, 10-12 même, je dirais. Puis, la petite a vraiment réagi très fortement quand elle m'a vue. Papa, j'ai peur de la madame. Puis ça. Puis, putain, moi, j'ignore un peu. Là, l'année d'après, on se recroise. Et là, le papa était vraiment pas content. Puis, il m'a dit, coudonc, tu fais-tu exprès pour nous suivre? Ben, j'ai disjoncté, Camille. J'ai disjoncté, puis j'ai vraiment dit, je dis, ouais, moi, je comprends pourquoi votre fille réagit comme ça. J'ai pas été fine. Cette fois-là, j'ai pas été gentille. Mais ça, ça a été vraiment une des réactions les plus ordinaires que j'ai eues. Je te disais, pourquoi tu nous suis? Voyons, non, je suis en train de faire mon épicerie.
Ben oui.
Je te suis pas.
aïe, c'est malaisant parce que j'avais envie de te demander si tu revivais cette scène-là aujourd'hui. Là, tu me dis que t'as répondu ça de façon sèche à l'homme. Bon, avec raison aussi, hein. Ça te prend par surprise puis d'une façon désagréable. Mais
ben aujourd'hui, je pense que j'aurais intervenu auprès de la petite.
Okay.
J'aurais ignoré papa, mais j'aurais essayé de savoir, ou du moins de dédramatiser la chose. Mm-hmm. Parce que quand les enfants réagissent comme ça, c'est souvent, ben oui, par peur, mais ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'ils ont souvent peur que nous, on ait mal.
Oui.
Puis, dans le fond, quand tu leur fais comprendre que non, ça fait pas mal, ça a juste poussé tout croche, tu sais, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de douleur associée ou quoi que ce soit, ben là, ils sont plus à l'aise.
Oui, mais c'est juste le fait parce qu'ils ont déjà appris une chose sur toi, ils ont commencé à engager la discussion et déjà, ça brise la glace.
Oui, puis souvent, un sourire, hein, larmes du sourire, ça aide à dédramatiser bien des choses. Là.
Complètement.
Un beau bonjour. Hein?
Oui, ça commence par ça.
C'est ça, ça commence là. Un beau bonjour.
Et puis, on a parlé de tes jambes, mais tes bras, est-ce que tu as tes mains?
Ben, mes mains sont plus petites. En fait, j'ai juste deux doigts dans chaque main.
OK.
C'est ça. J'ai pas vraiment de coude. Ben, j'ai pas de coude, mais mes bras sont arqués vers l'arrière. À l'hôpital, c'est arrivé une fois, entre autres, ils m'avaient opéré, puis ils ont été obligés de refermer parce que c'était pas fait comme ils pensaient. T'sais, les médecins m'appelaient le casse-tête. Là.
Ah oui, OK, quand même.
Okay. Oui, j'étais un petit casse-tête pour eux, des fois.
Est-ce que par rapport à... Est-ce qu'une chose que tu n'as jamais dit, tu sais, on parle souvent des masques, le masque de la fille forte, parce que oui, tu es une femme forte, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager aujourd'hui par rapport, justement, sans masque?
Ah, mais tu sais, je pense que oui, c'est ça. Derrière la fille forte, il y a une grande sensible. Mm. Ça devient épuisant, des fois, hein, de tout le temps. Je te dirais pas que c'est un rôle que je joue, celui de la fille forte, mais il reste que des fois, il y a des matins où tu te lèves puis tu fais ouais, un matin ça me tente pas là. Un matin j'aimerais ça avoir le droit d'être fragile comme un autre. C'est ça. Peut-être qu'un matin des fois j'aimerais ça filer sorry pour moi. Puis là c'est l'ancienne athlète qui parle. Je suis pas convaincue que je me laisse souvent ce droit là. C'est moi que ça met haute la barre aussi. Là.
Oui.
Mais ouais, ça, des fois, je pense que ça vaudrait la peine pour être capable de bien rebondir, de juste me donner une journée une fois de temps en temps où j'ai le droit de trouver ça chiant, ma vie de personne handicapée. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps facile.
Non. Mais parce qu'on n'a pas souvent la chance de le dire, t'es d'accord avec moi?
Ben, il faut pas le dire comme... C'est ça, je trouve que c'est un peu ça. Tu sais, quand on revient on va revenir au capacitisme un peu, mais on nous demande souvent de démontrer qu'on est capable de tout le temps. Hey, attends, c'est pas vrai, c'est pas tout le temps de même. Là. Puis il y a des fois, pour arriver à montrer qu'on est capable, ben ça prend du temps. Exemple, tu sais, arriver à montrer que j'étais capable de faire du patinage artistique, ça a été un an et demi de travail. Mine de rien, ça a été pendant un an et demi de ma vie où j'ai tombé.
Oui.
Là, on retient ça, mais il reste que dans cette année et demie-là, c'est pas vrai qu'à chaque fois que j'ai tombé, ça se faisait dans le plaisir, là.
Non, non.
Mais non. Des fois, tomber, ça fait mal, puis il faut se relever, puis on recommence. Puis ça serait le fun, une fois de temps en temps, quand tout transparence, qu'on ait le droit de parler ouvertement, que hey, des fois c'est chiant, puis les raisons pour lesquelles sont chiantes aussi, c'est pas tout le temps juste le corps, c'est bien souvent la notion d'accessibilité, les jugements, oui. Des choses qui nous appartiennent pas.
Mm-hmm.
Des choses qui nous appartiennent pas, qui rendent notre vie un petit peu plus difficile, tu sais.
Oui, mais puis comme tu dis, si nous on n'en parle pas, si la personne concernée ne parle pas de ses défis, de ses difficultés, ben qui va être au courant, qui va le savoir?
Voilà, puis c'est important aussi, si nous, on a un effort quand on a à parler de ces choses-là, ben c'est de pas pas être culpabilisant.
Non.
C'est ça, pas être culpabilisant, mais en nommant les vraies choses aussi.
Mm-hmm.
T'sais, en nommant les vraies choses. Fait que des fois, la ligne est mince, hein? Entre pas dire à quelqu'un, hey, tu m'as pas donné tel emploi, puis je pense que tu t'es trompé parce que tu m'as mal jugé.
Uh-huh.
T'sais, il reste que des fois, il y a des emplois, je sais très bien, je les ai pas eus parce que j'impressionnais ou on n'était pas capable de se mettre dans ma peau. Mais mm-hmm. Des fois, c'est peut-être cet exercice-là que j'aimerais que les gens arrêtent de faire. Mm-hmm. Arrêtez d'essayer de vous mettre à ma place.
Mm-hmm. Il y a du...
Un, vous ne serez jamais capable de vous imaginer comme il faut, c'est quoi, là?
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Exercice impossible. Puis, non, mais c'est ça, exercice impossible. Puis, de toute façon, ça sert à quoi faire ça?
Non, je suis d'accord avec toi.
Des fois, je me questionne. C'est juste, tu sais, notre boulot, dans le fond, c'est peut-être juste d'observer, hein?
Oui, mais c'est oui, ça. Mais on apprend beaucoup de choses en observant.
Oui, en observant puis en questionnant, montre-moi donc comment tu fais. Tu sais, au lieu de dire, je pense pas que tu vas être capable, montre-moi donc comment tu fais.
Mmh.
Aller se rassurer, finalement.
Complètement. Et là, toi, tu travailles chez Parasport Québec. Est-ce que tu travailles à temps plein là-bas?
Oui, madame.
Et comment tu vis?
35-40 heures semaine.
Mais encore une fois, entre nous tous, oui. Entre toi et moi et nos chers auditeurs, est-ce que c'est facile d'avoir ce rythme-là de 35-40 heures semaine?
Pas toutes. Pas toutes. Puis j'ai des choix, j'ai des choix à faire, dans le sens où mes fins de semaine, je me repose. Mais en même temps, comment je peux dire ça? Est-ce que j'ai vraiment le choix de travailler temps plein? Il y a ça aussi. À un moment donné, j'ai un loyer à payer. Oui. J'ai les mêmes réalités financières qu'une autre femme de mon âge. Si je travaille pas, je suis venue au monde comme ça. Donc, j'ai pas vraiment d'aide financière outre l'aide sociale.
Hmm.
Fait que, tu sais, l'aide sociale, non merci.
Non.
C'est pas au niveau de l'estime de soi et tout. C'est pas nécessairement la meilleure option. Hein. Donc, j'ai décidé de travailler à temps plein. Mais j'avoue que je suis dans un milieu pas mal spécial, Camille. Hein. Je pense que Parasport, je travaille pour des athlètes en situation de handicap aussi. Donc, je sais que je suis dans le bon milieu où, quand je suis fatiguée, je peux le dire.
Tu as les gens qui sont plus à l'écoute, qui sont plus sensibilisés à ta situation.
Absolument, absolument. Ben oui, c'est des gens qui travaillent dans le milieu. Ma directrice, son conjoint, il est en fauteuil roulant. Tout le monde, de près ou de loin, côtoie des personnes handicapées. Là.
Mm-hmm.
Puis je pense que le fait d'être... Puis je suis la seule dans le bureau en situation de handicap. Puis je pense que c'est important que je sois là. Ben là, je dis moi ou... n'importe qui, ça prend au moins une personne en situation de handicap.
Oui, pour représenter.
Pour être représenté, mais ne serait-ce que pour au quotidien connaître la réalité aussi.
Hmm.
Tu sais, quand vient le temps d'organiser un événement, exemple, premier party de Noël, Joël était là, j'ai ri un petit peu de mon patron quand il nous a invités dans un bar où il y avait des marches.
Aïe, aïe, aïe.
Oui,
encore.
Non, tu vois, même si on est à Parasport, on pense pas toujours à ces choses-là.
Non.
Parce qu'on l'oublie. Je pense que c'est ça qui arrive. On finit par l'oublier. T'sais, les gens qui sont avec toi au quotidien, là, ils finissent par l'oublier, là, qu'il te manque une jambe puis un bras. Là.
Oui.
C'est Camille qui prend le dessus. Fait que c'est cool, ça. Même moi, ça m'a fait sourire là, quand je suis arrivée sur place. Puis, vous venez m'aider parce qu'il y a des marches.
ils t'ont aidé à rentrer? Ils t'ont transporté?
Ben oui. Je me suis fait transporter par des beaux gars.
Ah!
Ben oui.
Mais toi, tu as le don de trouver l'avantage de transformer le négatif en positif.
Ah, ben je sais pas, mais oui, il faut. C'est pas... Tu sais, on n'a pas tout le temps le choix, Camille, hein, des claques sur la gueule qu'on a dans la vie, mais je pense qu'on a toujours le choix du côté de la médaille qu'on regarde.
J'adore. En plus, tu parles de médailles. Toi, ayant été une athlète, il y a un magnifique message que tu passes derrière ça.
C'est comme ça pour n'importe qui. Puis, pour être capable de regarder les deux côtés de la médaille, ben, ça veut dire qu'il faut prendre le temps aussi de regarder les deux côtés de la médaille. Je pense que c'est important dans la vie pour être capable de rebondir. C'est important de prendre le temps de sacrer aussi.
Oui. Ben, alors, est-ce que tu as un sacre à nous crier bien fort avant la fin de l'émission?
Ben non, on va me garder une petite jambe.
On n'ira pas jusque-là. Mais écoute, Joël, je tire ma révérence à la grande dame que tu es.
Ah, t'es bien fine. Merci.
Merci infiniment pour cette belle entrevue.
Et félicitations à toi pour ta belle émission.
Merci, je suis très contente. Merci infiniment. Et ben, d'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'équipe de l'émission. Alors, Maurice Bolduc qui est à la mise en onde en ce moment, Claire Guérin, la recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, si vous voulez réentendre cette émission ou la partager, rendez-vous sur canalm.vusetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. À la semaine prochaine!